Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Premier invité des auditeurs ont la parole, le député Olivier Falorni. Bonjour.
Bonjour.
Vous présidez la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie. Et après les vidéos choc de l'association L214, vous avez dévoilé ce matin vos propositions pour améliorer le fonctionnement et s'assurer que le bien-être animal est au minimum respecté. La mesure phare, c'est la mise en place du contrôle vidéo obligatoire. Alors, où seront placées ces caméras et est-ce qu'elles vont filmer en permanence ?
C'est vrai que lorsque j'ai décidé de créer cette commission d'enquête, j'ai réagi à un choc de ces images vidéo clandestines de L214 qui étaient absolument insoutenables. Donc j'ai demandé cette commission d'enquête, je l'ai obtenue. Et c'est vrai que, à la lumière de la réflexion de ces 6 mois d'audition qui ont été vraiment, je pense, assez exhaustives, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait renforcer les contrôles. Parce que sur ces vidéos clandestines, on ne voyait à aucun moment un service du contrôle vétérinaire, alors qu'il y a obligatoirement dans chaque abattoir un vétérinaire pour surveiller.
C'est d'ailleurs une des propositions. Vous proposez que dans les abattoirs de plus de 50 salariés, il y ait en permanence un agent des services vétérinaires aux postes qui sont les plus sensibles, c'est-à-dire l'établissement et la mise à mort. Hein, c'est ça.
Oui, parce qu'il s'agit de changer une logique. Aujourd'hui, vous avez un vétérinaire dans chaque abattoir, mais le vétérinaire, on peut le comprendre, est préoccupé par la dimension sanitaire dans l'abattoir. L'affaire de la vache folle a évidemment renforcé la crainte concernant la question sanitaire. Et on en oubliait un peu la question du bien-être animal. Nous voulons que ces deux questions soient traitées à égale dignité et dans les grands abattoirs, ceux de plus de 50, salariés, un contrôleur vétérinaire soit au poste le plus sensible, c'est-à-dire celui de l'étourdissement et de la mise à mort.
Donc, un vétérinaire plus des caméras, c'est ça la nouveauté.
Voilà, alors nous parlons de contrôle vidéo, c'est-à-dire que c'est un outil supplémentaire à la main de l'inspection vétérinaire, donc à la main de l'État. Alors il ne s'agit pas de fliquer, par exemple, si les salariés font bien leur cadence.
On va pas regarder ça.
Il y a une finalité très précise qui rentrera dans la loi et nous devrons légiférer sur le sujet.
Parce que vous êtes sûr que ça sera légal ? Vous êtes sûr que la CNIL
On les a auditionnés. On a auditionné les responsables de la CNIL. Ils nous ont dit la contrainte majeur, c'est de donner une finalité d'intérêt général. Ils nous ont dit la finalité de la protection animale en est une. Il faut simplement l'inscrire dans la loi. Et ce contrôle vidéo permettra de contrôler ce qui se passe dans l'abattoir, non seulement au poste d'étourdissement et d'abattage, mais aussi à la sortie du camion et dans l'amener des animaux, parce que parfois il se passe des actes de maltraitance dès l'entrée de l'abattoir et même avant dans les transports.
On va demander à Étienne ce qu'il en pense. Il vient de faire le 32-10, il est dans les Vosges et il a travaillé dans des abattoirs. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour. Voilà, donc moi j'ai travaillé 15 ans en abattoir. Et une des choses qui me hérisse le plus quand on parle de la maltraitance animale, c'est qu'on se demande pas comment des gens arrivent à maltraiter ces animaux. On se soucie du bien-être animal depuis très longtemps. Dans l'abattoir où je travaillais, ça fait 5 ans qu'on a un responsable du bien-être animal. On s'est jamais posé la question de savoir s'il fallait un responsable du bien-être des ouvriers.
Alors, vous pensez que c'est lié finalement, que le bien-être du salarié de l'ouvrier entraîne le bien-être animal, c'est ça?
C'est une des choses qui va l'entraîner, parce que comme vous êtes 10 heures de suite à la chaîne, à travailler d'arrache-pied dans des conditions épouvantables, parce que on parle de l'hiver, mais pensez en été sous des tôles, c'est malheureusement souvent ce qui se passait chez nous, sous des tôles où ils faisaient régulièrement dans l'atelier plus 35 degrés, et qu'on vous demandait de faire le même travail qu'en température, on va dire, normale. Je vous laisse imaginer dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, fatalement, à un moment ou à un autre, c'est l'animal qui va faire le fusible.
Étienne, vous restez avec nous. Restez avec nous, parce qu'on va...
Attendez, un instant,
on va faire une petite pause. Et vous restez avec nous. Vous allez pouvoir dialoguer directement avec Olivier Falorni, parce que je sais qu'il y a des choses dans son rapport parlementaire qui sont prévues justement pour les salariés des abattoirs. À tout de suite, Étienne.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. RTL Midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
On parle du travail dans les abattoirs après les vidéos chocs de l'association L214. En studio avec nous, le député Olivier Falorni, qui est rapporteur de la commission d'enquête président de la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie. Et il y avait Étienne qui posait des questions, justement, qui avait travaillé dans les abattoirs. Qu'est-ce qui est donc prévu dans votre rapport pour les salariés qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles?
C'est une question tout à fait pertinente et c'est une des quatre grandes parties de notre rapport qu'on a intitulé « Mettre les salariés au centre des préoccupations ». Donc ça veut tout dire. Effectivement, on considère que le bien-être animal est lié au bien-être des salariés et on a auditionné des salariés d'abattoirs. On a vu un certain nombre de documentaires qui ont été tournés dans des abattoirs et écoutant des salariés et on a pu mesurer l'extrême pénibilité de ce travail, les risques physiques et psychiques que ça entraînait, des corps littéralement cassés. Et je crois qu'on peut dire également que ce métier aujourd'hui a une faible attractivité. Moi, j'ai rencontré des directeurs d'abattoirs qui me disaient « Vous m'amenez demain matin 10 jeunes qui arrivent simplement à l'heure et qui viennent tous les jours, je les embauche. » Et il y a aussi une stigmatisation de ces salariés qu'il faut vraiment combattre. Et loin de nous, l'idée de dire que ceux qui travaillent dans les abattoirs sont des sauvages ou des barbares.
J'imagine, Étienne, que vous confirmez, c'est un métier extrêmement difficile, tant sur le plan physique que psychologique.
Je suis moi-même en ce moment en recherche d'emploi parce que j'ai une épaule fracassée. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai subi une opération suite à ce travail. J'ai pas pu reprendre un cours normal. Alors ça sous-entend que je n'ai plus de travail pour l'instant, mais il y a plein de choses dans ma vie courante aussi sur lesquelles j'ai dû faire un trait. Je me suis retrouvé fort démuni quand je me suis retrouvé sans réelle qualification sur le marché du travail avec une épaule en moins. Et j'ai eu l'impression que si j'avais été un porc, un agneau ou un bœuf, on serait peut-être un peu plus préoccupé de mon sort. Loin de moi, le fait de dire qu'il faut torturer les animaux, bien au contraire. J'élève moi-même des animaux chez moi que je consomme.
Oui.
Je rejette pas la responsabilité à d'autres de les tuer. Je sais que, je vais dire, c'est pas fait proprement parce que c'est jamais propre, mais c'est fait dans les meilleures conditions possibles.
Voilà, mais on va dire que la situation aujourd'hui des personnes qui travaillent dans ces abattoirs, notamment au moment de la mise à mort, peut expliquer parfois certaines dérives.
On peut comprendre.
Voilà. Moi, j'en arrive. C'est peut-être une question un petit peu étonnante, Olivier Falorni, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer une automatisation? Finalement, on est en 2016, de la mise à mort, de l'étourdissement et de la mise à mort.
On y arrivera. Dans notre rapport, avant ça, on a proposé de rendre obligatoire la rotation des travailleurs sur certains postes de travail parce que, effectivement, comme
faire
monsieur,
ça toute la journée,
y a un moment, les épaules craquent et parfois la tête craque. Mais je suis convaincu, pour répondre à votre question, que dans 5 ou 10 ans, l'abattage des animaux, c'est-à-dire la phase d'étourdissement et de saignée, se fera de façon automatique, ce qui évitera les problèmes de mauvaises pratiques sur ces étapes particulièrement compliquées. Donc je pense qu'on arrivera à moderniser l'abattage et peut-être par le biais d'exosquelettes, aider aussi physiquement ceux qui sont amenés à toujours faire le même geste.
Vous parliez aussi des conditions d'étourdissement. Ça, c'est un problème crucial pour l'abattage rituel. Qu'est-ce que vous avez prévu ?
L'étourdissement, c'est la règle dans l'Union européenne. C'est-à-dire que chaque animal doit être étourdi avant d'être abattu. Néanmoins, dans l'Union européenne, le culte musulman comme le culte juif bénéficie d'une dérogation qui s'inscrit dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Constitution française pour permettre que l'abattage rituel se fasse sans étourdissement préalable. Ça n'est pas satisfaisant à mes yeux. Je considère que, et alors que ça a été pratiqué et que c'est pratiqué dans certains pays à l'étranger, je pense à la Nouvelle-Zélande, on puisse faire de l'abattage rituel avec étourdissement réversible préalable. Réversible, ça veut
Qu'est-ce
dire
que ça
quoi
veut dire parce que c'est...
Alors, l'étourdissement réversible,
c'est, assez technique.
C'est que vous faites perdre conscience à un animal, mais vous ne prenez pas le risque de le tuer.
Ça n'est pas une mise à mort.
Ça n'est pas une mise à mort préalable. Aujourd'hui, l'étourdissement des bovins, par exemple, c'est avec un pistolet à tige perforante. L'animal ne reprendra pas conscience.
Et ça, c'est accepté par les communautés juives ou musulmanes?
Ce que les cultes redoutent, c'est que l'animal, puisque c'est contraire à leurs préceptes, soit mort avant la saignée, c'est le principe de la charogne. Certaines fatwas, je pense à une fatwa en Égypte, acceptent l'étourdissement réversible. Et en Nouvelle-Zélande, on tue des ovins, et on en exporte beaucoup à destination des pays musulmans, de façon réversible, et ils sont certifiés halal. Donc ce que nous proposons dans le rapport, c'est de ne plus se limiter simplement à la dérogation de l'abattage sans étourdissement, mais de proposer deux autres méthodes dans le code rural, l'abattage avec étourdissement préalable réversible, et troisième méthode, l'abattage avec post-jugulation, c'est-à-dire qu'on étourdit l'animal quasiment simultanément.
Vous restez avec nous, évidemment, Olivier Falorni. On continue cette émission dans un instant. On sera avec Isabelle, qui mange quasiment plus de viande, et avec Marc, qui trouve que dans cette affaire, on en fait peut-être un petit peu trop. À tout de suite.
RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot, Christelle Robière. Christelle Robière, Vincent Parisot.
Et nous évoquons toujours avec vous au 32-10 les conditions de travail dans les abattoirs. On revient sur la mesure la plus visible préconisée dans un rapport parlementaire, l'installation de caméras. Ça vous fait réagir, Marc? Vous êtes à Rennes, bonjour.
Oui, effectivement, ça me fait réagir. Hein. Bonjour aux éditeurs et à votre invité. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que le procédé me paraît dangereux parce que finalement, c'est des mesures qui sont prises sur un aspect passionnel, c'est-à-dire parce qu'on a pris en caméra cachée des images, on en a fait un exergue, on en a fait toute une mousse à travers les médias. Et puis derrière, on doit s'empresser en tant que politique de réagir parce que c'est la dictature de l'opinion. Simplement, il y a eu une commission d'enquête. Moi, j'aimerais bien savoir statistiquement, pour 1000 animaux ou 1 million d'animaux tués en France par jour, il y en a combien qui subissent effectivement une maltraitance au moment de leur mise à mort. Sachant que la mise à mort, malheureusement,
Vous la posez à Olivier Falorni directement,
voilà,
votre question.
Et la deuxième chose, sur le même principe, je suis persuadé que moi, avec une caméra cachée, je suis capable d'aller dans une crèche, dans une école maternelle, dans une maison de retraite, de trouver quelques images où effectivement à un moment donné, parce qu'elle est aussi fatiguée, parce qu'à des moments on est tous un peu défaillants, elle va avoir un geste un peu maltraitant dans une crèche ou dans une maison de retraite ou dans une école. Et dans ce cas-là, monsieur le politique, je vous demande de mettre en place une caméra dans toutes les maisons de retraite de France et de Navarre.
Donc en gros, est-ce que c'est la politique de l'émotion finalement qui vous a fait agir,
Olivier Falorni?
Ah, mais de l'émotion, j'en ai eu. Quand j'ai vu les vidéos, je l'assume, ça a été un choc. Ce que monsieur explique, moi je ne l'excuse pas, je peux le comprendre. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que des actes de barbarie, de torture, de perversité, tels qu'on l'a vu, ne sont pas du tout courants. Nous n'avons pas observé de façon régulière ce type de comportement. Néanmoins, tous les abattoirs ont été inspectés après la création de la commission d'enquête par le ministère de l'Agriculture, et on a vu un grand nombre de dysfonctionnements mineurs comme majeurs dans les abattoirs. Donc il y a un problème. Voilà, vous faites référence aux crèches ou aux maisons de retraite. Heureusement qu'on sanctionne des maltraitances sur les enfants ou les personnes âgées. Je veux vous signaler que depuis quelques semaines, nous avons voté un amendement qui fait désormais de la maltraitance sur les animaux dans les abattoirs, mais aussi dans les transports, désormais un délit pénal. Donc, maltraitance sur animaux, cela relèvera de la loi, et d'ailleurs nous voulons sensibiliser les procureurs sur cette question.
Voilà, Marc.
Jamais dans mon propos j'ai voulu justifier cette violence. Jamais. Et ce que je voudrais souligner dans ce cas-là, on en fait un délit pénal, mais la délit pénal, il existe aussi pour les écoles maternelles, les maisons de retraite, etc. Et pour autant, on ne met pas des caméras en place. Voilà. Il y a un côté... À un moment donné, je pense que des dysfonctionnements, il en existe dans plein d'endroits dans la société et tout ça. Oui. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est la politique de l'émotion qui a conduit à faire des mesures qui vont coûter de l'argent, qui ne seront pas forcément efficaces, parce qu'une caméra, ça se détourne, ne vous inquiétez pas. Et finalement, c'est sous le coup de l'émotion.
Oui, mais on a bien compris ce que vous voulez dire. Alors, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que Olivier Falorni, effectivement, vous nous dites que vous avez été choqué et touché par ces vidéos, et qu'il n'y a pas que vous. Isabelle, et elle veut nous le dire au 3210, a réagi ainsi également. Isabelle dans l'Oise, bonjour. Bonjour, oui, Isabelle.
Bonjour.
À tel point que vous mangez de moins en moins de viande.
Oui, et au départ, je mangeais de la viande par habitude, par éducation. Et maintenant, depuis la vision de ces scènes d'horreur, ça m'a fortement interpellée, à tel point que je culpabilise maintenant si j'en achète et si j'en consomme. Mais je pense que je ne dois pas être la seule. Mmh. J'ai d'ailleurs tout de suite été en rapport avec L214 et
l'association qui avait sorti ces images.
Et je leur ai envoyé un don et... Parce que je suis pas encore une végétarienne, mais les animaux, ce ne sont pas des choses. Et c'est sûr, je critique aussi l'abus de pouvoir des gens avec les personnes âgées ou en maternelle.
Oui, on va essayer de pas tout mélanger.
Mais pour vous, c'est la surveillance vidéo qui est vraiment la plus importante. Alors que Marc, lui, dit au fond, Olivier Falorni, c'est un peu le syndrome du mouchard. Et on va peut-être un peu trop loin.
Non, parce que la finalité est précise. C'est la règle instaurée par la CNIL. Il faut qu'une caméra soit installée avec une finalité précise. Si on la détourne de son objectif, pour le coup, c'est celui qui le fait, en l'occurrence peut-être le directeur, qui est passible de la loi, lui. Et le contrôle vidéo à la main des services de l'État peut être consulté par le directeur de l'abattoir, mais du coup... Il ne pourra plus nous dire, comme certains directeurs des abattoirs dévoilés par L214, qu'ils ne savaient rien. Et j'ajoute que le contrôle vidéo a aussi un aspect de formation. Ça sera de façon volontaire, selon la négociation salariale dans chaque entreprise, pour pouvoir utiliser des images de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques qui pourraient servir d'outils de formation.
Qu'est-ce que ça va devenir, votre rapport ? La mise en œuvre va suivre, c'est pour quand ?
Alors moi, ce que je souhaite, c'est un groupe de suivi qui va être constitué pour faire en sorte que les 65 propositions qui relèvent de 3 catégories, l'incitation forte, le changement réglementaire et la loi. Sur la loi, je suis en train de préparer avec mes collègues une proposition de loi sur le contrôle vidéo, parce que la CNIL nous a dit que c'était indispensable. Et puis à titre personnel, et là je n'engage que moi, je souhaite que l'on réfléchisse demain à une constitutionnalisation des droits des animaux. À une époque, on a adossé une charte de l'environnement à la Constitution pour prendre en compte les impératifs écologiques. Il y a des impératifs sur le droit des animaux. Je souhaite qu'on entre cela dans la Constitution française.
Il faut aller plus loin. Merci Olivier Falorni d'avoir dialogué avec les auditeurs d'RTL au 3210.